un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un récit qu'il a probablement raconté des dizaines de fois, le précisant, le recomposant, l'augmentant de détails ou au contraire, en minorant d'autres. Un récit qui a certainement évolué avec le temps et qu'il modifiera encore quand il sera plus vieux. Un récit que la justice a vérifié pour partie et qui relate des faits pour lesquels il a été condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Parmi les faits les plus graves qui lui sont reprochés, une vidéo de propagande de Daesh où on le voit dire à visage découvert « Voyez un policier et tuez-le, tuez-les tous, tuez chaque koufar que vous voyez dans les rues ». Un récit aussi, je le précise, que nous avons monté à partir de plusieurs heures d'enregistrement. Tout ça pour vous dire que bien qu'il contienne des éléments objectifs, des faits avérés et prouvés, ce récit est surtout sa parole, sa subjectivité, exprimée à un temps T, plus notre montage. Un témoignage dont on peut toujours douter, en ce qu'il recoupe une remarque faite dans son ordonnance de renvoi par l'administration pénitentiaire. Elle soulignait son inscription dans une dynamique positive et constructive, mais mettait la cour en garde contre son désir de plaire et d'être apprécié en toutes circonstances. Il nous a semblé néanmoins précieux et utile de revenir sur ces jeunes dits radicalisés, qui n'y connaissent parfois pas grand-chose à l'islam et se sont retrouvés en quelques mois soldats de Daesh en Syrie, et sur leur retour en France. Comment passe-t-on d'une zone pavillonnaire à une zone de guerre ? Samy, tout de suite, est un des premiers à revenir de Syrie avant le 13 novembre 2015 et un des premiers à être libéré après 7 ans et demi de prison. Épisode 1 sur 2 par Marine Vlaovic.
Je m'appelle Samy, j'ai 27 ans. J'ai passé 7 ans et demi en détention, après une condamnation de 10 ans, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste sur le territoire français, parce que je suis allé retrouver mon frère qui est parti faire le djihad en Syrie. J'ai grandi en région centre, pas très loin de Paris. J'ai grandi, on va dire, les premières années de ma vie en HLM, pour après partir en zone pavillonnaire, dans un petit lotissement, un petit village, pas très loin de la ville. J'avais une vie assez carrée, des parents présents, un père parfois un peu dur, surtout avec l'école. Parce que voilà, il voulait qu'on réussisse notre scolarité, il voulait qu'on puisse aller loin dans nos études. Donc j'ai un frère qui avait un an et demi de plus que moi, et une petite sœur avec qui j'ai 4 ans de différence. On a grandi, on va dire, un peu à l'ancienne dans le sens où nous, on n'avait aucun problème à se manger des bonnes baffes par notre père, sans aller forcément se plaindre ou voilà. Parfois c'était compliqué, mais j'ai eu des moments très joyeux dans mon enfance. J'ai eu la chance, par mon père et ma mère, de beaucoup voyager. Donc dès qu'il y avait des vacances scolaires, on prenait la voiture et on partait. Donc on a fait toute une partie de l'Europe. Et chaque année, on descendait au Maroc. Parce que c'est le pays originaire de mes parents. C'est la racine et aussi pour nous, parce qu'on a aussi grandi dans ce mélange un peu culturel de la France et du Maroc. Je baignais entre deux mondes, on va dire. Un monde dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué. Donc la famille, la culture musulmane, arabe. Et ce mélange aussi de culture française, occidentale. Et j'ai évolué dans un monde quand même riche, parce que mes parents avaient des amis de partout, de tout genre. Le côté religieux n'est jamais rentré dans les conversations. J'ai jamais entendu de débat religieux chez moi. Et mes parents priaient. Ils nous demandaient de prier aussi. Pour moi, c'était compliqué, on le faisait pas. J'étais jeune. Mon frère aussi, à ce moment-là, priait pas quand on était plus jeune. Je passais beaucoup de temps en soirée, je buvais, je fumais, la plupart de mes amis étaient français, j'avais des amis qui venaient de toute origine, de toute religion, voilà, toutes différentes les unes des autres. Un jour, c'était mon anniversaire, je crois que c'était mes 17 ans, et on a fait une soirée avec des amis, on a bu, on a beaucoup bu. Et à un moment, je sors de l'appartement dans lequel on faisait notre soirée pour aller chercher un ami pas très loin. J'ai mon verre à la main, je suis bien alcoolisé à ce moment-là. Et je vais chercher mon ami et là, en pleine nuit, je tombe sur mon frère en voiture. Qui zone, on va dire, dans la ville. Il s'arrête, il me dit « qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit « t'as bu ?» Je lui dis « non ». Il me dit « viens, monte dans la voiture ». Là, je lâche mon verre. Il entend le verre en verre qui se casse. Et quand je rentre dans la voiture, il sent que je sens l'alcool. Là, je me mange une gifle. Donc mon frère a mis la première et on est parti. Il m'a ramené jusqu'à une espèce de forêt. Bien sombre, bien noir. Il s'arrête au milieu de la route, il n'y avait aucune voiture. Je suis descendu de la voiture. Et là, il m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un est là en face de toi et que t'es bourré ?» Et là, boum, il me tabasse. Je tombe dans un fossé et il remonte dans la voiture. Il me dit « allez, monte dans la voiture, je te ramène chez papa. » Pour que mon père puisse me voir dans cet état-là. Cet état alcoolisé et tout. Et connaissant mon père, je me suis dit « bah, je vais me faire tuer. » Et là, on arrive devant chez moi, donc devant le pavillon. Et là, il me dit « vas-y, c'est bon, fais le tour de la maison, je vais t'ouvrir la fenêtre. » Et donc, il rentre, lui, dans la maison. Il m'ouvre le volet de ma chambre. Je rentre dans ma chambre et je tombe KO. Lui va dans sa chambre, comme si de rien n'était. Il a rien dit à personne. Et moi, j'ai l'impression que toute notre vie, en fait, on s'est bagarré, lui et moi. Parce qu'il n'était pas en accord avec la vie que je menais. Il n'aimait pas mes fréquentations, qui étaient pour lui des fréquentations faibles, parce que parfois c'était des Français, des non-musulmans, des gens que pas forcément issus de quartier. Mes amis, c'était des gens avec qui j'avais un bon feeling, tout simplement, des rencontres, des choses comme ça. Quand on nous décrit de l'extérieur, on dit que lui et moi, c'était le jour et la nuit. C'est vrai, c'était le jour et la nuit, lui et moi. Lui, c'était quelqu'un de très dur, très fermé. Moi, j'étais quelqu'un de très expressif, très extravagant. Mais il n'empêche que à chaque fois que mon frère a eu besoin de moi, pour quoi que ce soit, j'étais là. Même si avant ça, on se parlait pas, ou si avant ça, on s'était un peu bagarré. Bon, j'en ai pas les coups parce que j'arrivais pas, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours été là pour lui. Et donc, ouais, c'était compliqué. Je sais que le conflit syrien, ça l'a perturbé. Il n'était pas d'accord avec ce qui se passait là-bas. Bachar el-Assad, ce qu'il faisait, les musulmans, mais c'était au-delà des musulmans, c'était son peuple, ce qu'il faisait subir à son peuple. Tu vois, on pouvait l'entendre vaguement aux infos. Mais quand t'allais sur YouTube ou sur les réseaux sociaux que tu commençais à voir ce qui se passait en Syrie. Il s'était, on va dire, rapproché de la religion. Voilà, il s'est directement mis à faire la prière du jour au lendemain, à lire du Coran. Après, il laissait pousser un peu plus sa barbe, sa manière de s'habiller. Tu vois, il commence à mettre des sarouels, pantalons un peu larges. Et en avril 2014, il part en Syrie. Via Facebook, il a eu des contacts qui étaient sur zone avec Daesh. Et à partir de là, il a eu le numéro d'un passeur. Il a essayé de parler avec mes parents, ça passait pas. Donc il leur a vendu le truc de « je vais d'abord aller en Turquie, je vais apprendre le Coran en Turquie, je vais apprendre ma religion en Turquie, pourquoi pas le Maroc ?» C'était la réponse de mes parents, pourquoi pas le Maroc ? Mais voilà, il est arrivé à dévier sur le sujet de Bachar. Et à ce moment-là, on parlait pas encore de toute cette organisation terroriste et tout, c'était pas aussi explicite que les mois et les années à venir, en fait. On n'avait même pas de visibilité sur ce qui se passait là-bas. Vraiment, ça restait flou. Ça restait flou. Donc j'étais au lycée à ce moment-là. Je suis dans un flou, je suis en Angleterre, grâce à la bourse que j'ai pu avoir, la bourse Leonardo. qui est l'équivalent de la bourse Erasmus. Donc j'y ai passé un peu plus d'un mois et je suis loin de tout. Et quand je parle avec mes parents, je vois des parents tristes. Je passe toutes mes soirées dans les pubs. Je bois. Je suis là, je parle avec des Anglais. Je suis bourré, je sais même pas si je parle bien anglais ou pas. Mais je me dis, ça passe, ils vont me comprendre. Et je suis pas bien. Au-delà d'être perdu, je suis pas bien. Parce que mon frère est parti et il a donné aucune nouvelle. Et du coup, moi qui ne m'intéressais pas à tout ce qui se passait là-bas, je commence à m'y intéresser. Je commence à essayer de savoir, de chercher des vidéos parce que je me dis, peut-être que sur une des vidéos que je vais trouver, je vais voir mon frère. On n'a pas de nouvelles de lui, on n'a même pas une photo, même pas un message. Je me dis, peut-être qu'en cherchant, je vais trouver un truc qui va pouvoir me rapprocher de lui. Et après, du coup, bah, de fil en aiguille, en fait, je commence à me rapprocher de ce qui se passe vraiment là-bas. À ce moment-là, j'ai pas l'impression, je me dis pas, je regarde forcément des vidéos de terroristes. Et je rentre d'Angleterre. Je passe 2 semaines en France. Je suis pas bien, j'ai une boule au ventre, je dors avec une boule au ventre, je me réveille avec une boule au ventre. Je me dis, putain, mon frère, il est dans un pays en guerre. Et moi, je suis là, dans un confort, tranquille, je sais pas ce qui lui arrive. Et s'il lui arrive quelque chose, je me le pardonnerai pas. Et là, je décide de prendre un billet d'avion. Et je décide de partir en Syrie. Alors que j'ai pas de nouvelles de mon frère. Mais je retrouve le contact qu'il avait eu, du passeur. Et je me dis, ça va le faire. Je passe une dernière soirée avec mes potes. C'est la fête de la musique. On boit, on fait la fête comme pas possible. Je suis juste dans le moment où je veux kiffer avec mes potes. Et on passe une soirée de fou. Donc à ce moment-là, il y a personne qui sait que je pars. Je me prépare une petite valise, un petit truc, très léger. J'ai écrit une lettre à mes parents. Parce que je pouvais pas quand même partir juste comme ça, partir et c'est tout. Et j'appelle des amis qui eux me ramènent à l'aéroport. Je monte dans l'avion, direction Istanbul. Je prends un vol d'Istanbul à Gaziantep. De Gaziantep, je prends un bus jusqu'à la frontière syrienne-turque. Et je passe la frontière. Et je sais pas dans quoi je débarque. Je sais pas là où je vais, je sais pas. Je suis un jeune, à ce moment-là, je suis un jeune en 2014 qui a 18 ans, qui est fou dans sa tête. Le Moyen-Orient, ça m'était inconnu. Je connaissais rien à la Syrie, mais pas du tout. Oui, c'est sûr que je suis parti pour mon frère. C'est sûr et certain. Mais en soi, est-ce que je suis pas aussi parti pour moi aussi me prouver quelque chose à moi-même? Parce que moi, mon frère, il a toujours été vu comme quelqu'un de fort. Et quand t'es le deuxième, c'est un peu compliqué, tu vois. T'es pas vu pareil, c'est... T'es obligé de te poser cette question-là. Est-ce que je suis pas aussi parti pour prouver aussi à mes proches que moi aussi je peux faire preuve de bravoure en allant dans un endroit qui est conseillé à personne. Donc je passe la frontière syrienne. Quand tu passes la frontière, t'es pas livré à toi-même. T'es directement pris en charge. Et moi, en l'occurrence, j'ai été pris en charge par Daesh. Donc on est 5-6 et ils nous disent « Préparez-vous, prenez vos sacs, etc. etc. » Ils me demandent mes papiers. Ils me disent « T'inquiète, tu vas les récupérer après. » Bon, des papiers que j'ai jamais récupérés. Et là, il y a un espèce de minibus, un minivan qui nous attend. Et là, je vois un mec de 14 ans à peu près. C'est lui qui conduit ce van et il a sa cale à chaque côté de lui. Il est en sandales, treillis, sa casquette militaire. Et voilà, on roule dans le désert en fait. Commence à faire nuit tout doucement et on arrive devant un portail, un grand portail, comme une espèce d'école abandonnée, un truc du genre. Et là, le portail s'ouvre. Et là, je vois plein de gens dedans. Plein de gens, tout le monde en train de crier « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Il y a des mecs qui viennent, qui me prennent dans leurs bras et tout. Et je me dis « Ouais, en fait, c'est des mecs aussi qui ont passé la frontière et qui sont là à attendre, en fait. » C'est un camp d'attente, en fait, c'est un maqar. Et on sait pas ce qui se passe par la suite parce que personne n'est capable de nous répondre sur ce qu'on va faire, sur là où on va aller, etc. Tu sens que déjà t'es dans ce contexte de guerre. Parce que les gens autour de toi sont armés, en tout cas les gens qui s'occupent du camp sont armés. Et moi, à ce moment-là, je suis pas religieux. J'ai une base de religion dans ma vie, mais je suis pas religieux, je prie pas. Et à un moment, par exemple, tout le monde se lève pour aller prier, et moi, je suis l'un des seuls qui reste assis, et des mecs viennent me voir et me disent « Tu fais quoi, là ?» Et je dis « Comment ça ?» Ils me disent « Bah, lève-toi, faire tes ablutions, on va faire la prière. » Je leur dis « Moi, je prie pas. » Ils me disent « Comment ça, tu pries pas ?» Et tout, « Lève-toi. » Tu vois, je sens que c'est chaud. Moi, ce que je dois faire, c'est retrouver mon frère. Et si j'arrive pas à passer 2 jours là-bas, parce que je prie pas et que je vais avoir des gros problèmes, voilà, faut que je fasse ma prière. C'est de la dissimulation. C'est une sorte de takia. De base, on parle de takia pour les gens qui sont radicales, islamistes, et qui cachent cette radicalité, cette radicalisation, en se faisant passer pour quelqu'un de lambda, quelqu'un de normal. Mais moi, j'étais dans une takia, du coup, inversée, pour rentrer dans le moule. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite, en fait. Jusqu'au jour où, en fait, il y a des bus qui viennent. Il y a des bus vides qui viennent, et là, on monte tous dedans. Ils nous disent qu'il faut qu'on monte dedans, donc on monte dedans. Direction, pas loin de Raqqa, Tabqa. Et là, on va dans un premier camp d'entraînement. Et moi, je suis dans une espèce de chambre. Je sais pas, ça fait comme des espèces de petits blocs en béton, en façon dortoir, où il y a des petits matelas au sol. Et c'est là où on dort, en fait. Et moi, je suis avec des Français. Et il y a plusieurs blocs, il y a 5-6 blocs. Tu vois, c'est comme un endroit abandonné, une base en tout cas abandonnée. Pas très loin, il y a une espèce de parcours du combattant. Donc là, ça commence à être de plus en plus clair. Donc c'était entraînement physique le matin, apprentissage de la religion, des bases en tout cas de la religion, jurisprudence. À ce moment-là, pour moi, c'est un peu vague tout ce que j'apprends, parce qu'on est par groupe de langues, mais ils ont quelqu'un qui donc fait ce travail de traducteur, parce que moi, je ne parle pas le même arabe. Moi, je parle un arabe, on appelle ça Derija, le marocain. Moi, je sens que je suis pas dans le même mood, le même état d'esprit qu'eux. À ce moment-là, j'ai pas du tout accès à Internet. J'ai aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger. Et c'est là que je rassemble un peu des pièces du puzzle, où je me dis, bah si j'avais pas de nouvelles de mon frère, c'est peut-être qu'il était dans ce même contexte de camp d'entraînement, de tout ça, où il pouvait pas rentrer en contact avec l'extérieur, qu'il pouvait pas donner de nouvelles à la famille. Et c'est vrai que personne ne venait te voir en te disant, tiens, un téléphone, appelle les tiens. Non, pas du tout. Dans ce camp d'entraînement-là, je suis resté plusieurs semaines. Et jusqu'au jour où ils sont venus faire un dispatching. Dire que ça y est, on allait partir dans des vrais camps d'entraînement militaires. Et en demandant aussi s'il y avait déjà des volontaires pour aller en zone de guerre. Il y a des gars, ils y allaient direct. Et moi, je me manifestais pas. Moi, je restais dans mon coin, tout ça. Et du coup, après, bah, les volontaires sont partis. Et après, ils ont commencé à classer les mecs par nationalité. Et donc moi, je suis avec les francophones. Et donc je suis envoyé avec ces mecs-là, donc dans 2 bus. Et là je vois un mec arriver en 4x4, tu vois, avec une équipe à lui et tout. Je me dis, ouais, ça doit être un mec important, tu vois. Et je vais le voir et je lui dis, ouais, je cherche un gars qui s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Et je parle de mon frère. Il me dit, ouais, t'inquiète, j'ai entendu parler de toi aussi, il te cherche. Il me dit, mais t'inquiète, va, toi tu vas monter dans ce bus-là avec les gars, avec les francophones, et tu vas pas être très loin de toute façon. Donc je monte, j'ai cet espoir, tu vois, j'ai cette force de me dire, bah, faut que je tienne jusqu'à que je le vois, en fait. Donc j'arrive dans ce camp d'entraînement en pleine nuit, dans ce nouveau camp, tu vois, qui est un camp militaire. Et là, je me rends compte que je suis dans la guerre, je suis préparé en tout cas à la guerre. Tu fais de l'entraînement de manipulation d'armes, tu fais du combat au corps à corps, attaque au couteau. Donc on fait des vrais entraînements militaires. Je suis un sportif de base. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. J'ai ce truc un peu compétiteur. Dans les entraînements, je veux être le meilleur. Parcours du combattant et tout, je me donne. Et de là, les instructeurs viennent me voir aussi. Ils me disent, écoute, je vois que t'es assez chaud en sport. On m'a dit, ça te dirait de prendre en main les entraînements sportifs du matin. Je leur dis, ouais, pourquoi pas. Et du coup, bah, sans le vouloir, sans l'avoir demandé, ils m'ont donné ce poste d'émir. Donc moi aussi, je me suis mis à être calibré. C'est une protection, ouais, aussi. Et par la suite, après, tu te dis quand même, tu vois, c'est peut-être aussi un truc pour que tu t'accroches aussi à ça, en fait. C'est un point d'attachement supplémentaire. Parce que c'est des camps, vraiment, c'est dur. D'être coupé du monde, que t'as de visibilité sur rien. T'as à peine deux tenues avec toi. Putain, même le savon, il te manque. Tu te laves dans le frat. Tu vois, t'as pas ce truc de eau chaude, eau froide. C'est que l'eau froide. Tu vois, t'es limite au milieu du désert. En pleine canicule. Il fait chaud. Et t'apprends à manier une arme. T'as l'impression que au-delà de tenir une arme, toi-même, tu deviens une arme. Et après, pareil, t'as la cagoule. Tu vois, t'as un truc noir sur la tête. Où t'as juste deux trous. Et moi, ça m'est arrivé de porter une cagoule. Et je voyais dans le regard des autres ce que ça faisait. Et de voir que des yeux, bah ça fait peur. Le Sami d'avant, bah il commence un petit peu à disparaître en moi, tu vois. À un moment, j'ai vu mon reflet dans une vitre de voiture. Je me suis pas reconnu. Je me suis vu amaigri. Je me suis vu avec une touffe de cheveux qui partait dans tous les sens. Une vraie touffe, mes cheveux, c'était un soleil. Et ouais, je suis choqué. Quand je me vois là, à ce moment-là, il n'y a plus de Sami qui fait la vie. Il y a Sami qui est en train d'avancer sans savoir où il va. Qui est en train d'attendre. Qui a hâte de pouvoir retrouver son frère. Je suis en plein parcours du combattant, il fait nuit, le parcours est éclairé juste par des lampadaires. Et là, je vois des voitures rentrer, tu vois, au sein du camp. Je suis à fond. Et là, petit à petit, au loin, je vois un mec en camis. Camis qui a une tenue traditionnelle, tu vois, consonance quand même religieuse. Et il marche tranquillement, les bras croisés avec une arme dans ses bras. Comme s'il berçait un bébé. Je vois juste un mec qui avance. Et là, je sais pas pourquoi, d'un coup, là, je vois que c'est mon frère. Donc, je suis à fond en train de courir. Et je dévide ma trajectoire. Et je cours en direction de mon frère. Je cours et je le prends dans mes bras. Et je tombe en larmes. Et je sens mes larmes qui tombent comme ça, tu vois. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'arrives quoi, tu vois? Je vois qu'il est content de me voir, quand même. Parce qu'il est souriant et tout, il est content. Je sens un de ses bras qui se met derrière mon dos, tu vois, en mode de accolade. Et là, je lui dis, mais t'es fou, je te cherche partout. Je voulais savoir ce qui t'arrive, ce que tu fais. Et là, en fait, je le vois aussi devant moi, il est bien, il est en forme, il a rien, tu vois, il est... Et ouais, après, le truc naturel qui me vient, c'est ça y est, on repart ensemble. Franchement, quand je l'ai vu, je dis, ça y est, je vais me barrer. Je sais pas où je vais me barrer, mais je vais me barrer avec mon frère, je serai avec mon frère, c'est juste ça, je pense à rien d'autre. Je sais même pas ce qui se passe dans ce pays-là, mis à part les vidéos que j'ai pu voir. Tu vois. Et là, il me dit, mais t'es fou, quoi. Il m'a dit, tu vas finir ton camp d'entraînement. Et donc là, je retombe de bien haut, quand même. C'était un peu l'arnaque. Et là, quand même, je commençais à me dire, ouais, quand même, mon frère, je crois qu'il a une place importante. Il vient avec les chefs me parlent de lui, et c'est des chefs aussi importants, tu vois, des émirs importants. Du coup, arrive le jour où le camp d'entraînement se termine. Et là, je suis content. Vraiment, tout le monde est content. Donc là, il y a des minibus qui viennent. Et là, on va direction Raqqa. Et quand on arrive à Raqqa, on passe par la ville. Et là, on commence à voir la ville. On commence à voir de la vie. On commence à voir de la destruction. Tu vois, limite, tout le monde est silencieux dans le bus. Et en plus, à ce moment-là, quand on est dans le bus, on entend une attaque d'avion de chasse. On entend un bombardement. Et j'avais jamais entendu de bombardement, je savais pas ce que c'était. Tu vois, tu voyais ça dans les films. Mais quand tu l'entends, pour de vrai, et que tu sens le sol trembler jusqu'à tes pieds, tu vois. Tu sens le bus bouger, trembler et tout. Ouais, c'est un délire. Tu te dis, je suis dans un film. Et là, voilà, on passe de ruelle en ruelle. Jusqu'à arriver dans une espèce d'ancienne école. Je me suis dit que c'était une école parce que dans la cour, il y avait des espèces de petits terrains de basket, comme on a dans les écoles ici. Il y avait des tableaux dans les différentes pièces qu'il y avait. Et après, tout au long de la matinée, parce que c'était en fin de matinée, il y avait plein d'autres bus qui sont venus. Plein. Et là, après, on nous a expliqué qu'il allait avoir un dispatching. Donc, ça y est, vous êtes entraînés, vous allez être envoyés en zone de combat. Et donc, ils appelaient nom par nom, et tu sais, ça faisait des groupes. Ça les mettait en groupe, ils étaient tous en file indienne, assis par terre, tu vois. On était vraiment pas mal, on devait être une bonne centaine. 100, 150, tu vois, à peu près. Donc, il y en avait qui étaient envoyés partout en Syrie. Et moi, mon nom, il a jamais été cité. Donc, à un moment, je croise ce gars-là, ce fameux émir. Et je prends un francophone avec moi qui parle l'arabe. Et je lui dis, demande-lui, moi, ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire? Il a pas parlé de moi. Et là, il répond, j'ai vu avec son frère. Il va attendre que son frère revienne et partir avec son frère. Et le jour arrive où mon frère vient me chercher. Et là, on part au cœur de Raqqa. Je me demande pas ce que je fais là. C'est l'extinction de réflexion.
C'était Le Terreau, un reportage de Marine Vlaovic réalisé par Somaya Dabesh. Premier épisode, le deuxième à suivre demain dans Les Pieds sur Terre. Attaché de production Céline Paris et notre stagiaire Serita Ruggirello. I'm on love.